Radio Prague, les informations.
Visite du président Václav Klaus au Vietnam, fin de la réunion de l'Association des Sénats d'Europe, litige à la Chambre des députés autour de l'affaire des prétendues écoutes téléphoniques. Lors d'un périple de 12 jours qui le conduit en Asie, le président Václav Klaus s'est arrêté au Vietnam, un pays auquel la Tchéquie accorde une aide à long terme. Des accords de construction d'une usine électrique, d'une brasserie et d'une cimenterie ont été signés. Le président vietnamien Nguyen Minh Triet a soutenu la conclusion d'un accord de réadmission des immigrés vietnamiens illégaux. 38 500 Vietnamiens séjournent officiellement sur le territoire tchèque. En réalité, c'est plus qu'un double. La réunion de l'Association des Sénats d'Europe a pris fin à Prague. La déclaration adoptée par les représentants des Sénats de 16 pays exprime la conviction que la décision de la Commission européenne de consulter les parlements nationaux sur les nouveaux projets et documents contribuera à une simplification de la législation européenne et son rapprochement aux citoyens. La Chambre des députés s'est réunie à l'initiative du Parti social-démocrate qui a demandé au Parti civique-démocrate des explications dans l'affaire des prétendues écoutes téléphoniques. Celle-ci devait être effectuée lors de l'enquête sur la fuite d'informations du rapport de l'ancien chef de l'unité policière de lutte contre le crime organisé Jan Kubice, dénonçant une pénétration du crime organisé dans l'administration d'État. Selon le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, 46 opérations d'écoute dont politiques, journalistes et policiers avaient été effectuées. Même si elles ont eu lieu avec le mandat de la justice, elles ont concerné également les personnes qui n'avaient rien à voir avec cette affaire. Le plan du ministère de la Défense de renforcer la participation tchèque dans la mission de l'OTAN en Afghanistan n'a pas un soutien sûr à la Chambre des députés. La proposition du ministère d'augmenter les effectifs de 120 soldats actuels à 200 est une réaction à la demande des États-Unis, dont les forces forment le noyau de la mission. Le nombre des personnes de plus de 65 ans devrait atteindre un double d'ici à l'an 2050 si aujourd'hui ces personnes représentent 14% de la population. D'ici à 44 ans, ce sera un tiers. C'est ce qui ressort des statistiques publiées par Eurostat à l'occasion de la Journée internationale des seniors. Le problème de vieillissement de la population concernera l'ensemble des pays de l'Union européenne. On comptera un retraité sur deux travailleurs actifs. Des brouillards matinaux, des températures entre 17 et 21 degrés sont prévues pour samedi, jour de fête des Hiéronymes. C'était les informations avec Yarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Débute ce magazine d'actualité avec les 10 ans du Sénat tchèque et la réunion des Sénats européens à Prague par Alexis Rosenzweig. Retour dans le sombre passé avec Jarka Gisubelova et la découverte de l'enregistrement d'un procès avec un kulak dans les archives de la radio tchèque. Nous vous parlerons ensuite des nouveaux modèles présentés par Škoda au Mondial de l'Automobile à Paris. Guillaume Narguer a assisté à la magnifique rencontre Mladá Boleslav Olympique de Marseille et à la qualification donc de l'équipe tchèque en Coupe de l'UEFA. Plus triste, le retour d'un acteur de la corruption dans le monde du football sur la scène. Mais plus gai, le 75e anniversaire du Zoo de Prague nous rapproche Magdalena Rosinkova. Bonne écoute d'une émission réalisée par Jarka Fikirlova. En cette fin de semaine à Prague, plusieurs représentants de chambres hautes de parlements européens se sont rencontrés dans la capitale tchèque. Il s'agit d'une réunion extraordinaire de l'Association des Sénats d'Europe, organisée pour célébrer une date importante de la vie démocratique et parlementaire de la République tchèque. Alexis Rosenzweig.
10 ans, cela fait une décennie que la République tchèque a opté pour le bicaméralisme, ou plutôt opté pour le renouvellement d'un bicaméralisme qu'avait connu Prague avant-guerre. Et c'est le président du Sénat tchèque, Přemysl Sobotka, qui a proposé à ses homologues européens de venir pendant 2 jours à Prague pour débattre du rôle des chambres hautes à l'occasion de cet anniversaire. Selon lui, ces 10 années d'existence ont prouvé que le rôle du Sénat pouvait être important en temps de crise, au moment de l'adoption de lois majeures et en matière de politique étrangère. Christian Poncelet a confirmé ses propos en ajoutant que l'avantage d'une chambre haute et d'être moins dépendante du gouvernement. Un avantage qui permet l'organisation de débats publics sur des thèmes controversés, selon le président du Sénat français, l'un des 16 Sénats du continent à faire partie de l'association européenne, avec notamment la Chambre des Lords britannique et le Conseil de la Fédération russe. L'avenir de l'Union européenne a été l'un des sujets importants de cette rencontre pragoise. La déclaration finale adoptée par les représentants de l'association demande davantage de prise en compte de l'avis des parlements nationaux par la Commission européenne, qui devrait selon eux les consulter avant d'adopter de nouvelles normes. Dans cette même déclaration, on peut lire également que le bicaméralisme participe à l'amélioration de la qualité de la législation et de l'efficacité de l'ensemble du processus législatif. Peut-être de quoi convaincre les Tchèques que leur Sénat n'est pas inutile. Le fort taux d'abstention aux dernières élections sénatoriales avait en effet poussé certains membres du gouvernement de l'époque à envisager la disparition de cette deuxième chambre.
Un témoignage, pour l'instant unique du genre, sur le procès d'un paysan dans les années 1950 vient d'être retrouvé dans les archives de la radio tchèque de Plzeň. Jaroslava Gisubelova vous en dit plus.
Il s'agit de 130 minutes d'enregistrement sonore du procès intenté le 25 août 1954 contre Joseph Pajot, propriétaire de 21 hectares de terre dans le village de Bystřice au nord de la Bohême. Ce kulak, comme le régime appelait les paysans riches, était arrêté pour avoir trouvé dans son champ des tracts critiquant le régime communiste que la station radiophonique Europe Libre distribuait depuis des montgolfières pendant la nuit. Le procureur l'a qualifié d'activité dirigée contre l'État et condamné Joseph Pajot à 9 mois de prison et ordonné la confiscation de ses terres. Il faut remercier le journaliste de la radio tchèque Marek Janáč pour la découverte du document. Lorsqu'il a cherché les bancs du procès de Milada Horáková, il a invité les auditeurs à apporter une aide. Et c'est ainsi qu'on a découvert dans les archives du studio Plzeň les bandes magnétiques comprenant 130 minutes d'enregistrement du procès du paysan. C'est beaucoup plus que ce qui a été retrouvé du procès de Milada Horáková, dit Marek Janáč.
Pro mě bylo největším překvapením nalezení kartičky, na které je napsáno.
Pour moi, la plus grande révélation était une petite carte qui s'est glissée dans la bande et où il est écrit « Le témoin est appelé à ne pas intervenir lors de l'interrogatoire, cela trouble l'enregistrement ». Cette carte prouve que le procès de Bystřice de 1954 était conçu comme une propagande.
En effet, le procès de Joseph Pajot s'est déroulé dans l'auberge du village et tous les habitants devaient y assister. Son déroulement a ensuite été diffusé par les haut-parleurs dans les rues de Jičín, chef-lieu de la région, pour intimider la population. Le document retrouvé est précieux pour plusieurs raisons. Il a permis de contacter les 3 enfants du paysan, dont Ružena Tomášů, qui avait 19 ans lorsque son père était emprisonné. Pour l'historien Petr Blažek, ça valeur réside dans le fait qu'il jette plus de lumière sur la tragique collectivisation de la campagne et l'arbitraire du régime communiste dans les années 1950.
Ten dokument je vlastně jediný dochovaný záznam procesu.
C'est le seul enregistrement d'un des milliers de procès contre lesdits kulaks, les riches paysans. Il montre la façon dont ils étaient liquidés. À ceux qui n'ont pas vécu le communisme, il permet de se faire une idée sur l'atmosphère des années 1950. Celle-ci est la mieux illustrée par la personne du procureur, Lev Bloch, qui a occupé le poste de procureur après 9 mois d'études dans une école préparatoire pour ouvriers. Son comportement montre le niveau misérable de la justice de l'époque. Le salon de l'automobile 2006, le mondial de l'auto, se tient à Paris du 30 septembre au 15 octobre. Il présente au public dans les 60 nouveautés provenant de 26 pays. Parmi les fabricants, Škoda Auto, dont la principale usine se trouve à Mladá Boleslav en Bohême centrale, présente 2 nouveaux modèles. Le premier est la version off-road de la Škoda Octavia. Il a reçu le nom de Scoot et devrait entrer sur le marché mondial dans le courant de l'année prochaine. La seconde nouveauté de Škoda Auto est encore un prototype, mais qui pourrait bien être commercialisé. Le modèle a été baptisé Joyster. À la porte de Versailles, la Joyster est présentée en jaune vif et ses lignes assez agressives ne cachent pas la volonté de se donner un caractère sportif. Elle devrait s'adresser à une clientèle jeune, mais reflète aussi la recherche par Škoda de lancer une automobile à vocation citadine, répondant parfaitement aux attentes du marché. Plus de détails avec le chef du développement technique de Škoda Auto, Afale Ludanek.
La Joyster est une voiture réelle. Elle possède un moteur et peut donc rouler. Mais c'est une show car, donc une étude. Pour nous, cette exposition est une occasion de tester les réactions du public à la présentation de ce modèle et de savoir si une telle voiture serait acceptée. C'est une vision pour les années 2010-2015.
La Joyster a de grandes chances de passer du stade de prototype à celui de citadine, aussi courante que la Fabia, dont elle possède d'ailleurs le châssis. Mladá Boleslav a créé une énorme surprise jeudi soir en éliminant l'Olympique de Marseille au premier tour de la Coupe UEFA. Battu 0-1 à l'aller au stade Vélodrome, le leader du championnat tchèque s'est imposé 4-2 devant son public, au retour à l'issue d'une fin de match renversante. Guillaume Narguet.
C'est une faute professionnelle que les Marseillais ont commise en prenant de haut une équipe tchèque qui, devant ses 5000 supporters et dans son stade minuscule au milieu des HLM, s'est battue et a cru en son destin jusqu'au bout. Alors qu'ils menaient encore 2-1 à une demi-heure du coup de sifflet final et qu'ils avaient pratiquement la qualification en poche, les Provençaux ont soudainement baissé de pied, renoncé au duel et abandonné le cours des débats à une équipe locale qui jusque-là avait pourtant été largement dominée. Et finalement, tout au bout d'un match devenu complètement fou, les Tchèques ont profité de cette aubaine pour inscrire le quatrième but salvateur alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes dans le temps additionnel. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'OM, Albert Raymond, ne cachait pas sa déception et ne mâchait pas ses mots à l'égard de ses joueurs.
Vous savez, le football il est ainsi fait. Une équipe qui a plus envie que l'autre. C'est une équipe qui se bat pendant 95 minutes avec des qualités. Nous, on n'a pas été en mesure de gagner les duels importants dans nos 18 mètres. Et la conséquence, elle est là, c'est que on est éliminé, mais on est éliminé parce que l'équipe de Bonneda s'est battue plus que nous.
Malheureusement, petit à petit, on n'a plus gagné de duels, on n'a plus rien gagné. C'est vrai qu'on a des occasions, c'est vrai qu'on a été... On a été très 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 moyen dans la finition, mais disons que de prendre 4 buts quand même c'est énorme.
C'est incompréhensible pour vous, Albert ?
Oh, ben, on va analyser un peu plus. Je veux dire, c'est pas de regarder le match à une cassette qui va me donner d'autres explications que d'une équipe actuellement qui est peut-être s'est vue trop belle ou nous on s'est vu trop beau. Et bien là on a le retour un petit peu de ce qui se passe en football. Ça veut dire que quand on ne fait plus d'efforts, ben les équipes adverses sont autant aussi fortes que nous, et sinon plus fortes.
Au-delà de l'agressivité, est-ce que vous avez été surpris par cette équipe de Mladá Boleslav ?
Surpris, non, parce que au niveau des occasions de but, je pense qu'on aurait dû même faire 4-4, s'il aurait fallu faire 4-4. La seule chose que je regrette, c'est à un moment donné, ce manque de concentration, que ce soit défensif et même offensif, où on a laissé faire l'adversaire, et à un moment donné, comme je dis, vous laissez faire n'importe qui, tout le monde sait bien jouer au football. Hein.
Comment t'as vécu cette fin de match-là ? T'as senti que ça pouvait craquer sur les 5 dernières minutes là ?
Oui, c'était tragique, parce que tous les ballons aériens, on les perd. Et surtout, on était vraiment affolés parce qu'on ne mettait plus le pied sur le ballon, on n'arrivait plus à faire 3 passes. Je pense qu'on s'est vu trop beau quand même. On est tous passés à travers, mais on est tous passés à travers pour un match de Coupe d'Europe et c'est grave. Mais c'est comme ça, je pense qu'on ne mérite pas d'aller plus loin.
Outre Mladá Boleslav, deux des trois autres équipes tchèques engagées en Coupe UEFA sont également parvenues à se qualifier pour la phase de groupe. Victorieux 2-0 lors de l'aller à Édimbourg en Écosse, le Sparta de Prague, avec le Français Ludovic Silvestre dans son entrejeu, s'est contenté d'un 0-0, certes sans saveur mais suffisant pour passer l'obstacle des Hertz. De son côté, le Slovan Liberec a confirmé sa victoire 2-0 obtenue à l'aller en s'imposant 2-1 dans le Maracana de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Slavia de Prague dominait une nouvelle fois 1-0 par les Spurs de Tottenham et donc le seul club éliminé.
Le 27 septembre, la Cour municipale de Prague a confirmé le verdict contre Ivan Hornik, l'ancien directeur du club de football Pragua Viktoria Žižkov, poursuivi pour corruption. Ce vendredi, Hornik fait la une des grands quotidiens tchèques, car il est revenu sur le devant de la scène du football tchèque immédiatement après l'expiration de la sanction qui lui avait été infligée par la commission disciplinaire de l'Union du football tchèque. Pourtant, il risque de ne pas rester longtemps le conseiller du président du club de Příbram, Jaroslav Starka, son ami. La Cour lui a en effet infligé pour corruption une peine de 7 mois de détention avec un sursis de 5 ans, une amende de 30 000 euros et l'interdiction d'exercer dans le football pendant 10 ans. D'après le président de la commission disciplinaire de l'Union du football, Alexander Karoli, l'avenir de Ivan Hornik n'est plus l'affaire de l'Union, mais de la police et de la justice. Les sondages dans l'opinion publique révèlent que Ivan Hornik, condamné pour corruption, n'a plus rien à faire dans le monde du football. Pas moins de 15 000 enfants et adultes ont débarqué jeudi sur la colline verte du quartier pragois de Troïa, dans la partie nord de la capitale, pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation du jardin zoologique de Prague. Visité chaque année par 1 million de personnes, le zoo rivalise en termes de fréquentation avec un seul monument de la cité voltavine, le château de Prague. Magdalena Rosinkova.
La fête s'est déroulée dans le style de la première République tchécoslovaque et sous un soleil doux de l'été indien. Les raisons de cette ambiance rétro sont évidentes. Le zoo de Prague a ouvert ses portes précisément le 28 septembre 1931 à l'initiative de son premier directeur, le scientifique Jiří Janda. Parmi les premiers animaux placés dans le jardin, il y avait une louve, baptisée Lotte, des rapaces, mais surtout une espèce bien particulière, découverte au XIXe siècle en Asie par un explorateur russe, le cheval de Przewalski, dont l'élevage est devenu une spécialité du zoo de Prague. Dans son histoire, le jardin a vécu plusieurs moments dramatiques. Ne citons que le manque cruel de moyens financiers pendant la Deuxième Guerre mondiale et deux inondations qui ont ravagé ses locaux, celle de 1941 et une autre qui a coûté la vie à plusieurs animaux, survenue en 2002. La solidarité dont les Tchèques ont fait preuve après le drame en a surpris plus d'un. Dans une collecte publique, ils ont rassemblé presque 20 millions de couronnes, somme qui a permis de reconstruire et rouvrir le zoo en un temps record, un mois après le début des inondations. Bien connu du public depuis ce temps-là, le directeur dynamique du zoo, Petr Fejk, a su transformer le jardin en un espace interactif, ludique et attrayant pour les passionnés de la nature, tous âges confondus. On écoute.
Lidi strašně reagují na pocit, že se tady zvířata mají dobře.
Le public est très sensible au fait que les animaux se portent bien chez nous. C'est pour cela que nous avons changé le visage des pavillons, pour que les animaux puissent mener ici une vie à part entière, ce qui est leur droit. Ils ne sont pas enfermés dans des cages ou des pavillons en béton, mais sont placés dans un milieu qui est le leur, où ils sont entourés d'arbres, de plantes, d'écorces ou d'eau. On ne les transforme pas en jouets qui sont là pour être caressés. On n'habille pas les singes comme des poupées. Non, on essaye de développer leurs instincts naturels.
Aujourd'hui, le zoo de Prague abrite plus de 600 espèces animales. On peut soutenir financièrement leur élevage par un SMS de don ou alors par une contribution annuelle destinée à un animal de son choix dont on devient parent adoptif. Toutes les informations ainsi qu'une visite virtuelle du jardin sur www.zoopraha.cz.
Nous avons eu le plaisir de vous présenter Faits et événements sur les ondes de Radio Prague dont les émissions se poursuivent maintenant par leur partie économique.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire, une émission dans laquelle nous allons revenir sur les principaux titres de l'actualité économique de cette semaine. En commençant avec la Banque nationale tchèque, la Česká národní banka, qui a augmenté son principal taux d'intérêt de 0,5 point à 2,5% mercredi dans la foulée des relèvements décidés cette semaine en Slovaquie et en Hongrie. Le relèvement des taux a plutôt surpris le marché qui prévoyait une augmentation en octobre. Malgré cette hausse, le principal taux directeur de la CNB demeure l'un des plus bas en Europe avec celui appliqué en Suède. Selon les analystes, une nouvelle augmentation des taux de la Banque centrale tchèque est à attendre d'ici la fin de l'année ou le début de l'année 2007. Le nouveau gouvernement du Premier ministre libéral Mirek Topolánek, qui demandera la semaine prochaine la confiance des députés, a présenté lundi dernier un projet de budget 2007 avec un déficit de 91,3 milliards de couronnes. En euros, ça représente 3 milliards,21. Un budget qui ne respecte pas les critères fixés par le pacte européen de stabilité et de croissance, les fameux critères de Maastricht. Le déficit budgétaire se situera au niveau de 4% du produit intérieur brut. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances, Vlastimil Tlousti. Le pacte de stabilité et de croissance européen prévoit une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut par an. Dans ce contexte, le Parti civique démocrate a averti qu'il serait difficile de maintenir la date d'entrée dans la zone euro, initialement fixée à l'horizon 2010. Dans le même temps, son projet de budget a suscité les critiques de la Banque centrale, qui souhaitait une politique fiscale plus restrictive. Le ministère tchèque des Finances a par ailleurs publié vendredi dans la presse une annonce pleine page pour informer le public de l'ampleur de la dette publique cumulée du pays à la suite des événements survenus en Hongrie. Selon cette annonce, la dette publique cumulée du pays est estimée à 1300 milliards de couronnes, soit à peu près 45 milliards d'euros à la mi-septembre. Le ministère des Finances ressent la responsabilité d'informer pleinement les citoyens sur l'état des finances publiques et sur la préparation du budget 2007. C'est ce qu'on peut lire dans cet encart publié dans 3 journaux locaux. Dans la situation actuelle, étant donné que d'un point de vue extérieur nous sommes perçus comme une région instable du fait de la situation en Hongrie, l'état critique des finances publiques peut avoir des conséquences de grande ampleur. C'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre des Finances, Vlastimil Tlousti, dans un communiqué de presse destiné à expliquer les raisons qui ont motivé la publication de ces chiffres. On prend la direction de la Sibérie maintenant. Une visite du président tchèque Václav Klaus à Omsk en Sibérie occidentale et consacrée aux échanges économiques russo-tchèques a débouché sur la signature de contrats pour un total de 200 millions d'euros. C'est ce qu'a rapporté l'agence russe Interfax. Un contrat de 150 millions d'euros pour lancer la production de bioéthanol a été paraffé, ainsi qu'un contrat de 45 millions d'euros pour une usine de récipients en verre et un contrat de 12 millions de dollars cette fois. 12 millions de dollars pour une infrastructure de retraitement des déchets. Les sociétés tchèques ayant remporté ces contrats n'ont pas été identifiées. Un mémorandum pour la modernisation du réseau d'électricité de la ville a aussi été signé. J'espère que les hommes d'affaires tchèques vont devenir aussi célèbres à Omsk que la star du hockey sur glace Jaromír Jágr, c'est ce qu'a déclaré le président tchèque. Rappelons que pendant la grève de la NHL, la ligue de hockey nord-américaine, le hockeyeur tchèque avait évolué sous les couleurs d'une équipe de la ville d'Omsk, une équipe qui est propriété de Roman Abramovich. Et puis on termine avec une étude internationale. D'après cette étude réalisée par Robert Have Finance et Comptabilité, la moyenne d'ancienneté des salariés oscille entre 5 et 10 ans. 34% des Belges restent plus de 15 ans dans leur entreprise, contre 7% au Royaume-Uni. Quant à la République tchèque, elle affiche le taux de mobilité le plus fort, les employés restant seulement 3 à 5 ans dans la même entreprise. Et c'est ainsi que se termine cette rubrique économique. C'est également la fin des programmes en français sur Radio Prague pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas qu'à chaque moment de la journée, même de la nuit, vous pouvez nous retrouver sur Internet. L'adresse, je vous la redonne au cas où vous ne la connaîtriez pas encore. C'est le www.radio.cz. www.radio.cz. Vous pouvez même ajouter un /fr si vous voulez directement accéder aux pages en français. Pour nous écrire, l'adresse postale, c'est le Vinohradska 12 120 99 Praha 2. Vinohradska 12 120 99 Praha 2. Quant à l'adresse internet email, pour nous envoyer des emails, donc, c'est le français sans cédille, francais@radio.cz. C'était Alexis Rosenzweig au micro, David à la technique et Jarka Fikerlova à la réalisation. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.